VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Ouagadougou, 18h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. On commence par la crise libyenne. Les principaux leaders des autorités rivales en Libye prêts à former un comité pour amender l'accord négocié sous l'égide de l'ONU pour sortir le pays de l'impasse politique. C'est ce qu'a annoncé l'Égypte, qui fait office de médiateur. Plus de détails avec Saloua Jafari.
Le chef du gouvernement d'Union nationale, Faïz Sarraj, le président du Parlement de Tobrouk, Aguila Saleh, et le maréchal Khalifa Haftar se trouvaient tous au Caire pour des discussions indirectes parrainées par l'Égypte. Ils se sont mis d'accord, sans se rencontrer, sur la formation d'un comité conjoint qui sera chargé de préparer des amendements à l'accord signé au Maroc en décembre 2015 sous l'égide de l'ONU. Deux autorités politiques se disputent le pouvoir en Libye. D'un côté, le gouvernement d'Union nationale basé à Tripoli est reconnue par la communauté internationale. De l'autre, une autorité rivale qui contrôle une grande partie de l'Est libyen et s'appuie sur le parlement élu de Tobrouk. La Libye est plongée dans le chaos depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011.
La Libye célèbre dans deux jours, le 17 février, le 6e anniversaire de la révolution qui a mis fin au régime de Muammar Kadhafi. Mais le pays reste embourbé dans une interminable crise de transition avec une insécurité record, une économie en lambeaux et des rivalités politiques majeures. D'où le peu d'enthousiasme de la plupart des Libyens pour fêter l'anniversaire de la révolution. Les autorités ont prévu un programme d'activités sportives et culturelles sur la place des Martyrs à Tripoli. À cette occasion, crise burundaise, le Sénared, plateforme regroupant la quasi-totalité de l'opposition burundaise intérieure et en exil, annonce aujourd'hui son intention de participer à la nouvelle session du dialogue inter-burundais qui s'ouvre demain jeudi à Arusha, en Tanzanie, sous l'égide du facilitateur tanzanien Benjamin Mkapa. Plus de détails avec Eric Manirakiza.
Selon un diplomate africain cité par l'AFP sous anonymat, ce nouveau round devrait se pencher pour la première fois sur des questions de fond. Il s'agit du troisième mandat controversé du président Pierre Nkurunziza ou la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Le médiateur Benjamin Mkapa a dressé une liste de 33 participants, dont le gouvernement et ses alliés, des grandes figures du Sénared, de plateformes regroupant la quasi-totalité de l'opposition burundaise intérieure et en exil, ont été également invités, ainsi que d'anciens leaders du parti au pouvoir qui ont fui le pays après s'être opposés au troisième mandat. Toutes les tentatives de mettre à la même table le pouvoir burundais et l'opposition en exil ont jusqu'à présent échoué. La tâche s'annonce encore une fois très compliquée. La présidence burundaise n'entend pas discuter avec le Sénared, dont certains membres sont recherchés par la justice de Bujumbura.
Génocide de 1994 au Rwanda, la Cour d'appel de Stockholm en Suède a confirmé aujourd'hui la condamnation à perpétuité pour génocide d'un Suédois d'origine rwandaise impliqué dans le massacre de milliers de personnes au Rwanda en 1994. L'accusé, Claver Birinkindi, 61 ans, avait été naturalisé suédois en 2012, 10 ans après son arrivée dans le pays. Et puis en RCA, poursuite des combats entre groupes armés rivaux, le FPRC et l'UPC, deux factions de l'ancienne coalition Séléka, s'affrontent dans plusieurs localités du centre du pays. À Bangui, les réactions sont plutôt hostiles à l'égard de ces mouvements armés. Écoutons le journaliste Albert Mbaya, directeur de la publication Agora.
Ça ne veut rien dire. Au-delà des concepts qui sont englobés dans ces noms de partis, c'est pas de mouvements politiques ou militaires qu'on fabrique, il y a certainement d'autres raisons cachées qui motivent cette violence dont nos compatriotes sont des victimes aujourd'hui. Aujourd'hui, la RCA, c'est le ventre mou de la sous-région, et tous les bandits du continent africain pensent que c'est là qu'il faut venir s'enrichir. La preuve, Ali Daras est le patron de l'or. Nous avons des informations selon lesquelles ce bonhomme se tape 30 kg d'or par mois.
Albert Mbaya, directeur de la publication Agora en RCA. Conflit au Soudan du Sud voisin. Un rapport confidentiel de l'ONU a averti que la guerre dans le pays a atteint des proportions catastrophiques pour les civils et que l'emprise des milices risque de devenir incontrôlable et d'alimenter les combats pour de nombreuses années. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, écrit dans ce rapport que les civils fuient les villages en nombre record et que le risque d'atrocité de masse est réel. Cette détérioration de la situation sécuritaire au Soudan du Sud suscite de profondes inquiétudes au chef de l'ONU. Au Kenya, libération aujourd'hui des 7 représentants syndicaux des médecins écroués pendant 2 jours pour leur rôle dans une grève qui paralyse les hôpitaux publics du pays. En attendant leur jugement en appel, les syndicalistes vont reprendre les discussions avec le gouvernement pour mettre fin à cette grève de 10 semaines, Jacques Aristide.
Cette remise en liberté fait suite au récent geste d'ouverture du gouvernement kényan face à la détermination des syndicats et à l'impact négatif de l'incarcération des médecins dans l'opinion publique. Le ministre de la Santé, Cléopa Mailou, avait fait part hier d'une requête des autorités devant la cour d'appel pour faire libérer les syndicalistes afin que les pourparlers reprennent. Pour les représentants syndicaux, leur libération était le seul moyen pour continuer les négociations. L'objectif est de mettre un terme à l'arrêt de travail de quelques 5000 médecins du secteur public depuis 2 mois et demi. Les grévistes réclament une revalorisation de leur salaire. Le gouvernement avait proposé de les augmenter de 40%, mais la proposition a été refusée par les syndicats. Le jugement en appel des 7 syndicalistes, condamnés mi-janvier à un mois de prison, sera entendu le 23 février.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Actualité américaine maintenant, le président Donald Trump et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou donnent en ce moment même une conférence de presse à la Maison-Blanche. Avant même leur rencontre ici à Washington, la question palestinienne était au centre des débats. L'approche de Washington a apparemment changé selon un membre de l'administration Trump. Gabi Dorsil explique.
Ce que l'on sait en attendant les résultats de cette rencontre Trump-Netanyahou, un haut responsable de la Maison-Blanche a déclaré que l'objectif final, la paix entre Israéliens et Palestiniens, n'est pas forcément lié à une solution à deux États, précisant que Washington ne va pas dicter les termes d'un éventuel accord de paix. C'est une dérogation par rapport à la position assumée par les prédécesseurs de Donald Trump. Pour le négociateur palestinien Saeb Erekat, l'abandon de la solution à deux États équivaudrait au maintien de ce qu'il appelle le statu quo de l'apartheid. Cependant, la Maison-Blanche semble d'un avis différent. Une solution à deux États qui n'aboutit pas à la paix, c'est un but que personne ne poursuit, a ajouté le responsable américain ayant requis l'anonymat. Depuis de nombreuses années, les États-Unis ont soutenu l'option qui verrait les Palestiniens créer un État indépendant comprenant la bande de Gaza, toute ou une partie de la Cisjordanie et Jérusalem-Est comme capitale. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lui aussi estimé ce mercredi que tout devait être fait pour préserver une solution à deux États au conflit israélo-palestinien.
Les consultations entre le président Donald Trump et le premier ministre Benjamin Netanyahou portent également sur l'Iran et le conflit en Syrie. Au micro de Gabi Dorsil, le point de vue du journaliste Scott Bob, qui a longtemps couvert l'actualité israélienne.
Tous les deux hommes sont très concernés par les renforcements de l'Iran et surtout en Syrie. On va voir, mais M. Trump n'a pas l'intention, à mon avis, de s'ingérer plus militairement, disons, avec des soldats en Syrie. Déjà, il y a des forces spéciales. Je crois qu'ils vont laisser les Iraniens peut-être travailler un peu plus et peut-être il y aura des meilleurs échanges, disons, dans l'intelligence, les informations entre les deux gouvernements.
Vous êtes conseiller de Donald Trump. Quelle est l'erreur à ne pas commettre pendant cette visite?
Bonne question. Monsieur Netanyahou, quand il se sent menacé, il réagit violemment. C'est passé avec Monsieur Obama. Et alors, si j'étais Monsieur Trump, j'éviterais une confrontation au moins publique.
Scott Bob est un ancien correspondant de la Voix de l'Amérique basé à Jérusalem et actuel directeur du service francophone de la VOA. Retournons en Afrique maintenant pour l'actualité africaine. En bref, en Angola, les autorités ont fermé une école liée au prédicateur turc Fethullah Gulen, ennemi juré du président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan. Luanda a également procédé à l'expulsion de tous les citoyens turcs qui y travaillaient, rapporte l'AFP. L'école en question accueillait 750 élèves âgés de 5 à 14 ans. Et puis, la Banque africaine de développement va financer à hauteur de 108 millions d'euros deux projets agricoles en Côte d'Ivoire. Selon le ministère ivoirien de l'Agriculture, ces fonds sont destinés à garantir la sécurité alimentaire dans ce pays qui importe une bonne partie de ses produits de base. Et puis au Niger, le ministère nigérien de la Santé annonce la fin de l'épidémie de fièvre de la vallée du Rift qui a tué 33 personnes depuis fin août 2016. Surtout dans la région de Taroua, dans l'ouest du pays. Depuis l'apparition de l'épidémie, 399 malades ont été officiellement enregistrés à Tassara et Chintabaraden, deux des zones les plus touchées à Taroua, a précisé le ministre nigérien de la Santé. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Monsieur Juna.